Une des choses que l'on remarque pendant cette crise sanitaire, peut-être pas assez d'ailleurs, c'est un retour aux valeurs traditionnelles. Et dans ce retour aux valeurs traditionnelles, c'est aussi une inégalité entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi de recevoir Delphine Ho, qui est ambassadrice de France, qui est secrétaire générale du forum Génération Égalité, qui est en fait le plus grand sommet international pour le droit des femmes. Et il faut noter qu'il n'a pas eu lieu depuis 25 ans, donc il est essentiel. Ça aura lieu en juin. Et avec Delphine, on parle évidemment du droit des femmes en France, mais aussi beaucoup à l'international, de la fragilité justement de cette égalité, de comment on peut mettre des pays d'accord sur ce sujet, de comment on peut changer chacun sa perception de l'égalité. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'hommes qui considèrent qu'on entend beaucoup trop parler de l'égalité hommes et femmes, alors qu'en réalité, on se rend compte que c'est une égalité qui n'est pas totalement là en France, qui n'est absolument pas là dans beaucoup de pays et qui, dans tous les cas, est extrêmement fragile. Donc, je vous laisse avec cette conversation un peu longue, mais vraiment passionnante, parce qu'on fait le tour vraiment du sujet. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Delphine.
Bonjour Grégory.
Comment ça va aujourd'hui?
Bon, écoute, ça va. Sur le plan professionnel, ça va bien. Je dirais que sur le plan de la société, c'est une période compliquée et difficile un peu pour tout le monde, je crois.
C'est sûr. Donc, toi, tu es ambassadrice de France. Tu es en train de mettre en place un forum Génération Égalité pour l'égalité des femmes. On en est où aujourd'hui de l'égalité des femmes en France, mais aussi dans le monde, puisque c'est le sujet qui t'intéresse ici?
Vaste sujet. Alors, je dirais que depuis, on va dire, les 50 dernières années, il y a eu énormément de progrès, à la fois en France, en Europe, mais dans le monde entier aussi. Donc moi, le forum que j'organise et que tu évoquais, donc il est à l'initiative de l'ONU et de l'agence de l'ONU qui s'occupe de l'égalité entre les femmes et les hommes et des droits des femmes, donc ONU Femmes. Et à ce titre, on a un certain nombre de chiffres et de statistiques qui nous montrent que globalement, dans le monde entier, l'accès, par exemple, des filles et des femmes à l'éducation, les droits sexuels et reproductifs, la place des femmes dans l'économie, le nombre de femmes ministres ou parlementaires, tout cela a augmenté et plutôt sur la bonne voie. Donc, on observe qu'il y a eu de nombreux progrès. Mais on observe aussi qu'aujourd'hui, il y a une double régression qui est due de manière conjoncturelle à la pandémie. Et je pense qu'on va en parler, à la crise de la Covid-19. Mmh. On sait que très souvent, les crises, qu'elles soient politiques, économiques ou sanitaires ou sociales, creusent immédiatement les inégalités entre différents groupes de la société et notamment entre les femmes et les hommes. Et la régression, elle est aussi due, bien malheureusement, à une montée en force de puissances conservatrices, que ce soit de la part de certains gouvernements, de certaines organisations de la société civile, de certaines entreprises, et d'une pensée un peu rétrograde qui voudrait remettre les femmes à la maison, nous recentrer sur les valeurs de la famille entre une mère et un père, etc., etc. Donc on a à la fois une sorte de pushback politique et en même temps une régression qui est due à la crise sanitaire, donc économique et sociale.
Alors, effectivement, il y a plein de sujets à évoquer. Il faut dire aussi que c'est la première fois depuis 25 ans qu'un tel forum va avoir lieu. Est-ce que tu peux rappeler les dates et peut-être aussi l'enjeu? Parce que avant même qu'on rentre dans le sujet de l'impact de la crise sanitaire, la signature de ces 35 pays contre le droit à l'avortement, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du forum et du fait effectivement que ça fait 25 ans que ça n'a pas eu lieu et que c'est quand même assez fou et du coup c'est à l'initiative de l'ONU, mais la France joue aussi un rôle assez prépondérant dans ce forum, si je comprends bien.
Exactement, je dirais même que c'est assez scandaleux. Alors pour faire un petit point d'histoire sans être trop geek, d'abord c'est intéressant puisque depuis en gros la construction des Nations Unies, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et du système international tel qu'on le connaît, en réalité il a fallu attendre le milieu des années 90 pour que les droits des femmes soient reconnus à part entière et qu'ils ne soient pas simplement considérés, on va dire, dans la masse des droits humains et pour que il y ait une véritable conférence mondiale de l'ONU sur les femmes. Alors, il y en avait une, la toute première a eu lieu à Mexico en 1975 et la quatrième, la plus importante, a eu lieu à Pékin, en Chine, en 1995. Et il faut attendre 1995 pour que la communauté internationale se rassemble et se mette d'accord à la fois sur une déclaration qui tout simplement reconnaît qu'il existe des inégalités structurelles entre les femmes et les hommes, que certes, si certains progrès ont été réalisés, il reste encore de très nombreux obstacles à surmonter et que les États de la communauté internationale s'engagent donc à mettre en œuvre un programme d'action pour surmonter ces obstacles et atteindre une égalité réelle. Donc 1995, c'est une conférence de Pékin qui est fondatrice puisqu'elle crée un cadre normatif international qui n'existait pas pour les droits des femmes avant. Et elle est aussi connue parce que symboliquement, à l'époque, celle qui n'était que l'épouse du président américain Bill Clinton, donc Hillary Clinton, a eu cette phrase qui est devenue légendaire, « Women's rights are human rights ». Donc aujourd'hui, en français, on traduit « les droits des femmes sont des droits humains », ce qui pouvait sembler tout à fait évident, mais ce qui n'avait été vraiment, jamais vraiment singularisé en tant que tel. Et depuis 1995, on n'a pas eu de grande conférence mondiale de l'ONU sur l'égalité, alors que si on compare avec d'autres domaines tout aussi importants, et je pense notamment à l'environnement, vous savez qu'on a des COP tous les ans, certaines plus connues que d'autres, notamment la COP21 à Paris, mais il y a un grand rassemblement international chaque année pour faire avancer la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Il n'y a pas un grand rassemblement international chaque année pour faire avancer les droits des femmes. Il y a des réunions à l'ONU, évidemment. Il y a des États comme la France qui se battent pour faire progresser les droits des femmes à la fois dans les résolutions, dans les textes, donc dans les droits et aussi dans les actions. Mais je crois que ce forum Génération Égalité, donc mouture 2021, puisqu'il devait avoir lieu en 2020 et qu'il a été repoussé en raison de la crise, était attendu depuis longtemps. Et donc le rôle de la France dans cela, c'est que la France est co-hôte et co-présidente de cette conférence qui est à l'initiative de l'ONU, ONU Femmes, je disais tout à l'heure. Et la France accueillera donc la plus grande partie du forum qui aura lieu en juin 2021 à Paris. Et la première partie aura lieu à Mexico, puisque le Mexique est également co-hôte et co-organisateur, en mars 2021.
Merci beaucoup. Et alors, c'est vrai que il y a plein mal de mecs en particulier qui disent « mais le droit des femmes, on en entend parler tous les jours sans qu'ils se rendent compte nécessairement que en fait, ces évolutions de droit des femmes, c'est quand même quelque chose de très fragile. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, en particulier revenir sur cette pétition qui a été signée quand même par 35 pays, dont les États-Unis ?
Oui, alors moi j'aimerais bien qu'on en parle encore plus des droits des femmes tous les jours et je me réjouis notamment que depuis la vague MeToo qui a bouleversé beaucoup de choses, on en parle de plus en plus et c'est vrai qu'il se passe rarement une semaine ou une journée sans qu'un média ne mentionne la question de l'égalité femmes-hommes, mais ce n'est pas non plus un sujet de réjouissance puisque en général c'est plutôt sous un angle négatif pour nous dire que telle femme a été assassinée par son conjoint ou son partenaire, pour nous dire que plus de femmes vont passer sous le seuil de pauvreté à cause de la pandémie de la Covid-19, et pour nous dire notamment qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle en langage onusien les droits et santé sexuels et reproductifs, c'est-à-dire le droit des femmes à disposer librement de leur corps, à disposer de leur sexualité, à disposer d'accès à la contraception et à disposer enfin du droit à l'avortement, ces droits-là sont aujourd'hui plus que, je pense, jamais au cours des peut-être 15-20 dernières années, menacés par un certain nombre d'États très puissants, avec des gouvernements conservateurs qui ont été élus pour la plupart démocratiquement et qui essayent de revenir sur ces droits que nous, la France, mais aussi la communauté internationale, reconnaissent comme fondamentaux. Et donc, on parle beaucoup, effectivement, du droit à l'avortement, qui a été fortement remis en cause par l'actuelle administration américaine, mais a priori pas la prochaine, qui vient d'être élue, par des pays comme la Pologne et la Hongrie au sein même de l'Union européenne, mais aussi par d'autres pays un peu partout dans le monde. Et donc, cette déclaration à laquelle tu fais référence, c'est une déclaration initiée par l'administration de Donald Trump, auquel ont souscrit plus d'une trentaine d'États un peu partout dans le monde, et qui vise en fait à refuser de reconnaître un droit à l'avortement, de dire tout simplement qu'il n'y aura jamais de droit à l'avortement, de se recentrer sur des valeurs familiales et religieuses, et sur une conception de la cellule familiale qui est autour d'un homme et une femme, et d'un père et d'une mère. Donc, au-delà, en plus, des atteintes aux droits fondamentaux des femmes, qui est simplement de décider si elles veulent ou pas avoir des enfants, et quand elles veulent avoir des enfants, et combien d'enfants elles veulent avoir, ou si elles ne veulent juste pas avoir d'enfants, et disposer librement de leur sexualité, il y a aussi une attaque sur les droits LGBT.
En fait, ça me semble tellement fou de pouvoir penser que la moitié de la population mondiale ne puisse pas disposer librement de son corps. Enfin, je veux dire, même cette phrase est complètement folle en réalité. Et en même temps, on voit effectivement des pays comme les États-Unis, comme le Brésil, qui sont dans cette pétition et qui sont à l'origine même de cette pétition. C'est d'autant plus dingue. Pour toi, ça vient d'où cette peur des hommes, parce que finalement, de laisser les femmes libres de posséder leur corps, ou en tout cas, et plus largement plutôt, d'avoir des droits égaux finalement avec les hommes.
Ça vient de millénaires de patriarcat, ce contre quoi les féministes se battent. Ça vient évidemment de la peur d'une partie des hommes, pas de tous les hommes, de perdre une partie de leur pouvoir, puisque effectivement, ils ont été au poste de décision, à la fois dans les milieux politiques, les milieux économiques, les milieux diplomatiques et tous les milieux, tous les secteurs de l'industrie et de la société pendant des millénaires. Une femme qui a accès librement à sa sexualité, c'est une femme qui est indépendante, une femme qui peut décider librement si elle souhaite avoir des enfants et quand elle souhaite avoir des enfants, c'est aussi une femme qui accède à l'indépendance économique. Et c'est ce qu'on dit très souvent à de nombreux pays, y compris une administration républicaine qui est très engagée sur l'autonomisation économique des femmes, sur le fait que les femmes puissent accéder à des postes de direction dans les entreprises, sur l'égalité salariale, sur le fait que les femmes puissent être entrepreneuses, donc créer leur propre entreprise. On leur dit, tout ça, c'est très bien, c'est très beau, mais une femme qui a cet enfant et qui n'a pas choisi d'avoir cet enfant, comment voulez-vous qu'elle soit PDG d'une entreprise, qu'elle ait juste même la possibilité de créer son entreprise et d'avoir une activité économique? Donc en réalité, ces sujets, on ne peut pas les dissocier, on ne peut pas accorder des droits économiques aux femmes sans leur accorder le droit à disposer librement de leur corps.
Et tu faisais référence à la crise sanitaire. C'est vrai que quand on discutait ensemble, moi j'ai observé, puis j'ai lu par ailleurs, qu'il y avait eu un retour à des fonctions, entre guillemets, traditionnelles de la famille, dans des familles françaises, mais aussi aux États-Unis, un peu partout, où on a vu des femmes, entre guillemets, retourner, tout le monde était confiné, donc, s'occuper beaucoup plus de la maison et des hommes. Travailler entre guillemets, et moi ça me surprend, ça me choque de voir que finalement ces équilibres sont très tenus. Finalement, on se rend compte que c'est pas qu'on a fait vers l'égalité, on peut complètement retourner en arrière très rapidement.
Moi, malheureusement, ça ne me surprend pas trop. Aujourd'hui, la répartition des tâches ménagères entre les femmes et les hommes, y compris en France et dans des pays très développés, elle est encore extrêmement inégalitaire, y compris dans des milieux socio-économiques très favorisés. Même si il y a une différence entre ces milieux et des milieux plus défavorisés, puisque en général, ces familles-là et ces foyers peuvent faire appel aux services à domicile, c'est-à-dire à des femmes de ménage, et en général, ça vient soulager la tâche ménagère de la femme, ce qui n'est pas le cas dans des milieux plus défavorisés. Mais effectivement, on a constaté que pendant le premier confinement, où tout le monde était de facto assigné à la maison, la répartition des tâches ménagères n'a pas été plus équilibrée. Au contraire, certains hommes se sont tout d'un coup découvert une vocation ou un intérêt pour la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants, faire l'école, etc. Donc leur charge domestique a augmenté, c'est un fait, puisque de facto les parents devaient s'occuper plus des enfants et de la maison. Mais la charge domestique des femmes a disproportionnellement augmenté, c'est-à-dire qu'elle a quadruplé dans des pays comme la France, alors que la charge domestique des hommes aurait doublé, par exemple. On n'a pas encore tous les chiffres définitifs et on s'est retrouvé dans des situations où, même dans des couples où la femme avait un emploi à temps plein, bien rémunéré, dans une entreprise ou dans dans le secteur public à très haut niveau, c'est davantage elle qui a rogné sur son temps de travail pour s'occuper des enfants. Et c'est malheureusement une sorte de réflexe inconscient de la part du couple. Et c'est un réflexe qui n'est pas toujours complètement inconscient. Parfois, il est conscient aussi. C'est un choix économique qui est fait par les familles, par les couples. Parce qu'en moyenne, les femmes gagnent moins que les hommes. Donc, on a encore des fortes disparités salariales partout dans le monde, et cette inégalité salariale, elle existe aujourd'hui en France aussi, tout simplement parce que les femmes sont majoritaires dans les emplois à temps partiel, dans les emplois moins bien rémunérés. On l'a vu par exemple avec tous les personnels de santé, les infirmières, les aides-soignantes dans les EHPAD, qui sont à 70% des femmes et qui sont très mal rémunérées. Et donc ce sont principalement des femmes qui ont, le cas échéant, abandonné leur travail, soit démissionné, soit se sont mis en pause pour s'occuper des enfants et de la maison, parce que il y a un arbitrage qui est fait au sein du couple selon lequel le mari ayant un emploi qui est mieux rémunéré et un emploi peut-être à temps plein versus un emploi à temps partiel pour une femme, il est plus intéressant, on va dire économiquement, pour le couple que ce soit la femme qui abandonne. Et donc ça crée une situation catastrophique, y compris dans des pays riches comme les nôtres, où davantage de femmes, beaucoup plus de femmes, ont quitté le marché du travail pendant la pandémie en raison du confinement que d'hommes.
Et ce que tu disais, et ce que tu expliques, c'est que c'est d'autant plus vrai dans les familles défavorisées, c'est ça ? Je me trompe pas, hein.
Alors, dans les familles défavorisées, en général, les femmes n'ont pas le choix de s'occuper du ménage et des enfants. Elles ne peuvent pas avoir recours à des nounous, à des femmes de ménage, etc., etc. Donc, de facto, elles assument en général la très grande majorité des tâches domestiques. Il ne faut pas oublier aussi ce qu'on appelle les familles monoparentales, qui sont très, très grande majorité assumées par une femme, c'est-à-dire une femme toute seule qui élève des enfants, et où là, très clairement, le fait d'assumer parallèlement ensemble, simultanément, l'éducation des enfants ou la charge des enfants lorsqu'ils sont à la maison et un travail a été extrêmement compliqué. Imaginez typiquement une femme de ménage, un agent d'entretien qui a les enfants à la maison mais qui en même temps doit se lever très tôt pour aller nettoyer les bureaux, qui était une des seules types de catégories d'emploi qui a continué à travailler pendant le premier confinement. Certaines ont certainement dû arrêter leur emploi ou faire garder leurs enfants, ce qui leur revenait extrêmement cher, etc., etc.
Et justement, on en est où en France aujourd'hui du droit des femmes ? Parce que j'ai la sensation parfois que on entend beaucoup les féministes tous les jours, régulièrement, tu le disais aussi, sans doute pas assez, mais il n'y a pas peut-être une déconnexion entre des personnes qui sont plutôt CSP+ urbaines et la réalité de la France, ou alors est-ce que la France est plutôt en avance par rapport à d'autres pays, alors d'abord par rapport à l'intégralité des pays, mais aussi par rapport à d'autres pays plus développés, on va dire.
En termes de législation, donc d'appareils législatifs, de lois qui sont disponibles pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, on est plutôt bien positionné, sans chanter cocorico, mais ce sont les classements qui peuvent être établis par exemple au niveau de l'Union européenne. Il y a un classement qui est sorti récemment et qui positionne la France comme troisième meilleur pays en termes d'égalité femmes-hommes, après, sans surprise, la Suède et la Finlande. Donc on a un arsenal législatif qui est plutôt poussé en termes de protection contre les violences, d'égalité économique, d'égalité salariale, etc., etc. Je pense notamment à la loi de 2012, la loi Copé-Zimmermann, qui est vraiment une première dans le monde des pays développés et des pays de l'OCDE, qui impose un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Et on sait aujourd'hui que la France est beaucoup plus avancée que tous les autres pays du G7 en termes de pourcentage de femmes donc au conseil d'administration des entreprises, donc à des postes de direction. Et on pousse aujourd'hui pour qu'il y ait également un quota dans les COMEX, les comités exécutifs. Ceci étant, il y a toujours un décalage, on le sait, entre la loi, les textes, et puis la réalité. On a une loi sur l'égalité salariale depuis les années 70. C'est pas pour autant que nous avons une égalité totale et réelle aujourd'hui entre les femmes et les hommes. à la fois, puisque je le disais tout à l'heure, les femmes sont davantage sur des emplois à mi-temps, puisqu'elles choisissent dans le couple, où elles assument parfois de s'occuper plus des enfants, parce qu'elles sont majoritaires dans les métiers qui sont considérés comme moins importants socialement et qui le sont pourtant, caissières, infirmières, nettoyeuses, agents d'entretien, nounous, etc., et qui sont des métiers extrêmement mal payés aujourd'hui en France, et parce qu'il y a aussi toujours des discriminations salariales, même si l'État veille et surveille et vérifie et sanctionne, ça existe toujours. Donc la situation n'est pas parfaite en termes de lutte contre les violences. On le sait aujourd'hui, il y a des mouvements très forts pour lutter contre les féminicides. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aussi avec MeToo sur les questions de harcèlement sexuel et sexiste. Est-ce qu'il y a vraiment une déconnexion entre les milieux CSP+, et les milieux populaires sur la prise de conscience et sur la réalité des discriminations? Je ne pense pas. Au contraire, les femmes dans les milieux populaires sont encore plus victimes de discrimination dans l'accès au marché du travail, en termes de protection contre les violences, etc. etc. Je ne sais pas à quel point le militantisme est partagé, mais je pense qu'il est en tout cas très diffus sur les territoires français. Et il faut quand même noter qu'il y a eu une vraie libération de la parole avec le mouvement MeToo, donc qui est parti du monde du cinéma, mais qui aujourd'hui fait en sorte que dans tous les secteurs de la société, certains comportements, certaines choses qui étaient considérées à tort avant comme acceptables, comme faisant partie de la culture française, de la séduction et de la drague. Non, en fait, ça s'appelle du harcèlement, ça tombe sous le coup de la loi, surtout quand il y a abus de position dominante, donc position de pouvoir hiérarchique. Et donc, je pense que là, il y a vraiment des progrès sur ce sujet, même si malheureusement, on a encore un taux de féminicide qui est beaucoup trop important en France.
Ouais, effectivement, quand je te parlais de déconnexion, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'avais la sensation que, entre guillemets, les classes populaires souffraient beaucoup plus en réalité que ce qu'on pouvait voir dans des villes urbaines autour de personnes CSP+. Je l'entendais pas dans l'autre sens, en fait, je l'entendais vraiment dans ce sens-là.
Alors, mais... oui, et en même temps, les violences conjugales, elles ne concernent pas du tout, et de très loin, pas que les milieux populaires. Les violences conjugales, elles existent, elles sont souvent cachées, invisibles, fantômes, y compris dans des milieux extrêmement éduqués. Les violences sexuelles aussi. Le viol n'est pas du tout une réalité qui est cantonnée à un milieu populaire, au contraire. Et c'est dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, c'est le viol par un conjoint ou par un ex-conjoint. Et les inégalités économiques, plus on monte, y compris dans des couches élitistes de la société. Si vous regardez au CAC 40, il y a une seule des 40 plus grandes entreprises françaises qui est dirigée par une femme, aujourd'hui, Engie. Et le taux de femmes à des postes de direction, dès que vous êtes sur des postes considérés comme très importants, direction de la stratégie, direction du développement, versus direction de la communication ou direction du marketing, vous avez toujours très très peu de femmes.
Je me disais, comment on fait pour éviter que les pays qui vont participer à cette réunion en juin soient des personnes qui soient là juste pour être sur la photo, mais que fondamentalement ils ne changent pas les droits dans leur pays?
Ah, c'est une très bonne question qui s'adresse à la diplomate. Je t'en remercie. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on change le format, en fait, de ces conférences internationales. J'ai dit, chaque année, il y a des conférences à l'ONU. La spécificité de l'ONU, c'est que c'est en réalité, ça n'est pas une organisation, une entité qui émane d'elle-même. L'ONU, c'est simplement les 190 et quelques États membres de la planète qui se sont mis d'accord pour créer des instances de dialogue et de coopération. Et les conférences de l'ONU, elles doivent donc, par définition, inviter tous les pays membres de l'ONU. Or, nous avons choisi une voie qui est légèrement différente, de dire que nous travaillerons avec ceux qui veulent aller de l'avant pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour ce faire, ne seront invités à Paris et à Mexico uniquement les chefs d'État et de gouvernement qui viendront présenter des engagements concrets. Et lorsque je dis des engagements concrets, il n'y aura pas de texte, il n'y aura pas de résolution, il n'y aura pas de belles déclarations, il n'y aura... à vrai dire, aucun texte à l'issue de Paris, donc ça pourra en surprendre certains. Mais nous présentons ce qu'on appelle des coalitions d'action. Et des coalitions, le mot l'indique, ce sont des groupements d'acteurs sur la base du volontariat. Et c'est aussi la première fois qu'on a mis ensemble, qu'on a fait travailler ensemble, non seulement des gouvernements, non seulement l'ONU, ce qui est habituel, mais aussi des entreprises, mais aussi de très nombreuses associations de la société civile, des associations de jeunesse, des syndicats, etc. etc. Et donc, on a fait un appel à candidature, finalement, sur six thématiques prioritaires, qui sont la lutte contre les violences, l'émancipation économique, la place des femmes dans l'innovation et la technologie, le rôle des femmes dans la lutte contre le changement climatique, les droits et santé sexuels et reproductifs, et le soutien au mouvement féministe. Donc, on a choisi six priorités et on a fait un appel à candidature à la fois aux États, mais aussi aux entreprises, aux organisations de la société civile, etc. etc. Et donc, on a constitué des coalitions d'acteurs de bonne volonté qui souhaitent prendre des engagements et qui vont présenter une feuille de route sur 5 ans avec des objectifs chiffrés, un système de vérifiabilité, etc. etc. Donc, sans ennuyer tout le monde, on a vraiment changé ce modèle qui parfois peut un peu décourager ou dérouter les citoyens qui se disent « oui, mais à quoi bon sert telle ou telle déclaration à l'issue de tel ou tel sommet, puisque les engagements ne sont pas respectés ?» Donc nous, il n'y aura aucune déclaration, il n'y aura que des engagements d'action avec un système de vérification sur les 5 ans. Ceci dit, il ne faut pas non plus faire croire qu'on ne peut travailler qu'avec ceux qui sont 100% d'accord avec nous. Le féminisme et faire progresser l'égalité, c'est aussi aller convaincre ceux qui aujourd'hui ne sont pas complètement convaincus. Alors certains, nous n'allons pas les convaincre. Je parlais tout à l'heure de gouvernements conservateurs. Ils ont clairement choisi leur camp. Ils sont clairement contre une progression des droits des femmes et pour une sorte de régression vers une situation antérieure qui n'est pas satisfaisante à nos yeux. En revanche, la très grande majorité des États de la planète, et notamment dans ce qu'on appelle le Sud, c'est-à-dire l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, sont aujourd'hui quelque part au milieu du gué. Ils ont bien compris que pour assurer ne serait-ce qu'un développement économique de leur pays, ils ont besoin de la main-d'œuvre que représente la main-d'œuvre féminine. Ils ont besoin de l'intelligence, la créativité et la force des femmes à tous les niveaux de la société et à tous les niveaux de prise de décision. Ils ont bien conscience aussi qu'il y a un mouvement irrépressible pour la liberté des femmes à disposer de leur corps. Mais il y a encore de nombreuses résistances qui sont politiques, parfois religieuses, parfois traditionnalistes, parfois de certains courants dans la société, et ils doivent composer évidemment avec toutes les opinions. Et nous, notre rôle en tant qu'organisateurs de ce forum, mais aussi en tant que France, puisque la France est reconnue comme un champion mondial du plaidoyer pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est d'aller les convaincre de continuer le chemin, de progresser avec nous, donc de prendre des engagements pour leur propre population, mais aussi dans leur région, dans leur continent et dans le monde. Et donc, travailler avec eux sans les stigmatiser immédiatement parce que la situation n'est pas parfaite, mais la situation n'est parfaite nulle part.
Et comment se positionnent, par exemple, des pays comme la Pologne, dont on entend beaucoup parler sur ce sujet, ou la Turquie, voire même la Russie, en fait, qui sont... Enfin, c'est même plus du conservatisme, là, c'est de la régression totale.
Alors, ils ont une position qui n'est pas la nôtre. Et je rappelle que la France a toujours un modèle qu'elle considère universaliste, c'est-à-dire que nous considérons que les valeurs de liberté, de progrès, d'égalité que nous portons ne sont pas des valeurs françaises, mais des valeurs universelles qui, d'ailleurs, sont reconnues dans les textes de l'ONU auxquels on souscrit volontairement les États que tu viens de citer, ne serait-ce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc ces pays-là, aujourd'hui, ont adopté à la fois des positions, des programmes et un plaidoyer qui va clairement à l'encontre des progrès des droits des femmes, de une place plus importante de la femme dans la société, de davantage de responsabilités et surtout de davantage de droits à disposer de son corps. Donc ces États-là, nous avons évidemment des relations et des échanges avec eux, comme dans n'importe quel cadre diplomatique, mais s'ils ne souhaitent pas nous rejoindre pour le Forum Génération Égalité, personne ne leur force la main. Comme je le disais tout à l'heure, tout est sur la base du volontariat et de la coopération. Nous travaillons tout de même avec les société civile, ça c'est important de le noter. On travaille avec des associations de terrain féministes dans ces pays-là qui, on va dire un peu contre tous les vents, essayent de se battre malgré tout pour défendre les droits des femmes. On travaille avec des entreprises aussi parfois quand c'est pas possible de travailler avec les États.
Et oui, parce que l'idée c'est aussi de pas laisser tomber les femmes dans ces pays-là. Enfin, je veux dire, clairement, il y a un rôle, alors sans vouloir être post-colonialisme, et de toute façon, hein, je ne pense pas qu'on puisse être post-colonialiste avec la Pologne, mais on n'a pas ce sujet-là sur le tapis, ou sous le tapis en l'occurrence, en France. Mais c'est vrai que ça semblerait difficile, délicat, d'abandonner ces femmes, entre guillemets, mais aller en gouvernement quelque part.
Alors l'accusation de néocolonialisme, elle existe hein, tout de même d'un certain nombre de pays d'États africains ou asiatiques qui nous renvoient dans les cordes en disant que ces valeurs-là ne sont pas des valeurs universelles, que sont des valeurs occidentales et qu'eux ont d'autres valeurs qui est une famille basée sur un papa et une maman. Mais ceci dit, c'est des arguments qu'on entend aussi en France. Hein, CF, le mariage ouais, pour tous, ça, hein. En 2012. Que la femme est la gardienne du foyer, qu'elle doit s'occuper des enfants, etc. etc. Donc, on entend cet argument néocolonial, mais ce sont des valeurs qui, en réalité, la preuve en est, sont aussi portées par des États occidentaux comme la Hongrie et la Pologne, dans un cadre, en général, assez religieux, donc qui est vers un retour à des soi-disant fondamentaux religieux. Donc, avec ces États, effectivement, je dis, on a toujours un dialogue très franc en disant voilà quelles sont les valeurs que nous défendons, qui nous considérons valeurs universelles. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez souscrit à telle ou telle convention internationale, tel traité, telle déclaration qui reconnaît explicitement l'égalité entre les femmes et les hommes et que les inégalités doivent être dépassées et qu'il existe encore des obstacles. Parce que ces pays-là, je dois dire, ils n'ont pas toujours été, en tout cas leurs gouvernements n'ont pas toujours été conservateurs ou régressifs. Il y a 30 ans, 20 ans encore, ils ont signé des traités, des conventions, des résolutions qui étaient très progressistes. Et donc ce sont ces gouvernements-là aujourd'hui qui ont été élus pour certains un peu dans la même période, donc il y a 5 ans, maximum 10 ans, qui reviennent sur finalement des engagements qu'ont pris leurs prédécesseurs. Et donc on travaille aussi bien sûr avec les femmes de ces États-là et souvent ce sont les associations féministes de ces pays-là qui sont là pour dire pas du tout, ce ne sont pas des valeurs uniquement françaises ou occidentales, ce sont nos valeurs, nous les défendons aussi, nous aussi, nous nous assumons comme féministes et nous portons le même combat.
Est-ce qu'il y a des mesures coercitives contre ces pays qui ne respectent pas les traités qu'ils ont signés ? Comment ça fonctionne en fait ?
C'est très difficile de mettre en place des sanctions dans le système international aujourd'hui. C'est assez rare, honnêtement, que la communauté internationale impose des sanctions à des États. Déjà parce que c'est prévu dans peu de cas de figure et dans très peu de contexte. Et par ailleurs, même lorsque c'est prévu, c'est souvent des mécanismes qui sont extrêmement lourds. Ne serait-ce que, regardons au sein de l'Union européenne, il y a aujourd'hui des violations de ce qu'on appelle l'état de droit, donc des libertés fondamentales, observées en Pologne et en Hongrie. Et je ne parle pas que des droits des femmes, je parle d'autres droits fondamentaux. Le mécanisme de sanction, la procédure de sanction enclenchée par l'Union européenne a été extrêmement longue, tout simplement parce que, en général, il faut une unanimité. Et par définition, lorsque certains de vos membres sont ceux qui violent ces droits fondamentaux, ils ne vont pas voter pour s'auto-sanctionner. Et c'est le principe de la coopération internationale. Ce serait aussi curieux ou bizarre que tel ou tel pays décide d'imposer des sanctions à la France parce que, d'après eux, ils considèrent que nous avons violé telle ou telle loi. Il y a quand même des cadres, il y a de nombreux rapports. Aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, c'est évidemment ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'osait pas trop dire les choses. Or, aujourd'hui, on le fait de plus en plus, la France, mais aussi, bien sûr, les associations féministes de terrain qui n'hésitent pas à monter au créneau en disant « mon gouvernement n'a pas respecté tel ou tel engagement », etc., etc. On a un autre problème, c'est que des États, aujourd'hui, menacent carrément de se retirer de ces traités qu'ils ont signés. Donc là, c'est un autre sujet, on ne peut pas non plus leur forcer la main. Mais c'est en général des gouvernements qui ont été élus démocratiquement. Et puis, il faut le dire, aujourd'hui, c'est un vrai rapport de force diplomatique. Et c'est mon travail, et le travail des diplomates français et des autres diplomates des pays avec lesquels on travaille, c'est de dire que les droits des femmes, ça n'est pas juste une question de développement, de santé, d'éducation, de choses un peu, ce qu'on appelle le soft power, de choses bien gentilles, qui sont un peu secondaires par rapport à la sécurité nucléaire, au désarmement, aux résolutions de conflits, etc. Aujourd'hui, les droits des femmes, c'est au centre d'une vraie bataille politique entre les États, entre d'un côté effectivement la France et d'autres États, pour beaucoup européens, mais aussi d'autres États latino-américains, africains qui sont avec nous, et puis de l'autre côté, un autre groupe d'États très conservateurs.
Et alors, je sais qu'il existe, parce qu'on sait que les consommateurs, ils ont un pouvoir en particulier. Bon, pas en ce moment, évidemment, et peut-être que ça va à l'inverse d'une autre problématique qu'est l'écologie, mais on peut aussi faire de choisir les pays dans lesquels on voyage, potentiellement, et se dire que bah, les pays qui ne respectent pas les droits des femmes, on ne va pas y aller, typiquement. Est-ce que ça peut être quelque chose que les consommateurs empoignent, entre guillemets, pour justement faire céder les 10 gouvernements? Je pense aux Maldives, par exemple. Enfin, il y a plein de pays, finalement.
Alors, en général, la décision de voyager, dans tous les cas, elle est individuelle. Hein, elle revient à chaque citoyen. Est-ce que c'est une bonne manœuvre? Je ne sais pas. Je pense que ce genre de décision de ne pas voyager, elle s'applique dans des pays très extrêmes. Je pense notamment à la Birmanie, je pense notamment à la Corée du Nord, évidemment, peut-être au Turkménistan, ou des pays qui sont des dictatures extrêmement féroces, où les citoyens n'ont absolument aucun droit de parole et aucune liberté. Moi, je suis une diplomate à la fois professionnelle et en même temps de cœur. C'est-à-dire que je crois toujours au dialogue. Je crois toujours aussi qu'il faut aller à la rencontre des populations. C'est-à-dire que si vous ne voyagez pas dans ces pays-là, en général, honnêtement, ça ne va pas avoir un impact absolument catastrophique sur l'économie touristique du pays. Les populations de ces pays-là, elles ont besoin aussi de savoir qu'elles sont soutenues par des citoyens d'autre part dans le monde. Je connais bien un autre pays, qui s'appelle l'Iran, j'y ai vécu, j'ai travaillé, j'étais experte de ce pays avant de travailler sur les droits des femmes. Et moi, j'ai toujours incité à voyager en Iran. Moi-même, j'y étais plusieurs fois et comme je disais, j'y ai vécu pendant plus d'un an parce que les Iraniens sont tellement isolés du monde et les Iraniennes aussi, qu'ils ont besoin de contact avec le reste du monde et ils ont besoin de montrer aussi qu'une population n'est pas toujours sur la même ligne que son gouvernement et qu'il ne faut pas confondre les deux et il ne faut pas mettre les deux dans le même sac et diaboliser une population dans son ensemble. Donc moi, je serais plutôt d'avis de dire que ce n'est pas forcément le bon moyen. Après, chacun décide en conscience, évidemment. En revanche, participer à des campagnes menées par des associations et des ONG qui font du name and shame, qui disent haut et fort quelles sont les violations des droits des femmes et qui réclament de certains États, qui font pression sur certains États pour qu'ils assouplissent leur politique ou qu'ils l'adaptent, ça marche.
Je me pose aussi cette question, comment ça se fait, enfin, c'est quoi ta vision de ce retour à des valeurs traditionnelles? Moi, ma vision, c'est de dire que comme les gens sont en ce moment dans une perte de repère totale, que ce soit au niveau individuel, mais en réalité au niveau collectif, à cause de cette crise sanitaire, mais parallèlement par rapport aux différentes crises qu'on va traverser, bah, du coup, on a besoin, envie de s'accrocher à des choses qu'on connaît. Et du coup, les valeurs traditionnelles, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est des réponses simples, faciles, et que c'est peut-être pour ça qu'on a un retour à des valeurs traditionnelles. Et c'est quoi ta vision, toi? Comment ça se fait que, en particulier sur le droit des femmes, on retourne si facilement à des valeurs qui sont dites traditionnelles?
C'est une bonne question. Et moi, ce qui m'étonne toujours, ce qui me stupéfie et m'attriste incroyablement, c'est lorsque ces valeurs traditionnelles sont portées par des femmes. Et tu parlais tout à l'heure du Brésil, des États-Unis, d'autres pays. Ce ne sont pas que des hommes politiques ou au poste de décision qui portent ces discours-là extrêmement traditionnels, qui disent que la femme doit être au foyer ou que la femme doit se soumettre à la loi de Dieu sur son corps, sa sexualité, etc. C'est d'ailleurs très souvent des femmes qui sont mises en avant lors de ces discours-là et sur ce narratif-là. J'ai toujours un peu du mal à comprendre. J'aimerais avoir une conversation directe avec celles qui portent ce message-là pour comprendre d'où elles viennent. Je peux comprendre, je peux concevoir que cela corresponde à une vision du monde qui est en adéquation avec des croyances religieuses. Je peux le comprendre, même si au sein de toutes les grandes religions et notamment les trois grands monothéismes, on a des femmes qui portent une pensée extrêmement progressiste. Je pense notamment à Delphine Horviller au sein du judaïsme en France, mais aussi à des femmes imams, à des femmes dans l'Église catholique, etc. Et que donc il n'y a pas de fatalité sur les textes religieux. Donc c'est difficile à savoir pourquoi il y a une frange de la société qui se retrouve là-dedans. Je pense qu'il y a toujours une frange de la société hein, qui était plus conservatrice, plus sur c'était mieux avant, etc. Je suis un peu d'accord avec ton explication que lorsque tout est bouleversé, rien n'est plus compréhensible, rien n'est plus certain. Il y a une sorte de réflexe de survie, de retour à une situation qu'on a connue avant, qu'on n'a pas forcément considérée comme meilleure, mais dont on sait qu'elle fonctionne d'une manière ou d'une autre. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de populisme, et c'est-à-dire d'hommes ou de femmes politiques qui surfent, pas forcément sur ce qui correspond à leurs convictions, mais sur ce qui peut facilement convaincre et mobiliser les foules. Et je pense qu'il y a toujours eu une peur sur le corps des femmes. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser. Il y a énormément d'articles, de livres et de pensées, de réflexions là-dessus. Il y a toujours eu une paranoïa des hommes, d'une partie des hommes sur la sexualité des femmes, sur la femme qui dispose de son corps, sur la sorcière, sur la femme qui prend le pouvoir, etc. Mmh. Et c'est curieux parce qu'on voit un peu ressurgir ces épouvantails de manière très subliminale dans des discours, y compris en France et dans des pays très développés.
C'est marrant que tu fasses référence à Delphine Horviller, parce que c'est une des personnes que j'ai mis sur ma liste en me disant ah, « il faudrait que je la reçoive sur mon podcast ». Je vais essayer de la contacter bientôt.
Je suis une fan
bientôt.
Absolue, donc.
pour toi, comment on fait ? C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on voit bien que le droit des femmes... et que la réalité des femmes aujourd'hui, elle est clairement pas égale. Est-ce que c'est par l'éducation des petites filles ? Est-ce que, enfin, comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est par la diffusion plus large de la contraception ? Comment ça fonctionne ? Comment on fait en sorte que ça se rétablisse ou que ça s'établisse d'ailleurs, parce que ça n'a jamais été le cas en réalité. Donc,
il faut le prendre par tous les bouts. En fait, il n'y a pas un seul des éléments qui à lui seul est suffisant. C'est vrai qu'on entend souvent « tout commence avec l'éducation des filles ». Moi, j'ai envie de dire « tout commence avec l'éducation des garçons, surtout ouais, ». C'est-à-dire que... c'est vrai. C'est-à-dire que c'est très bien. On peut éduquer les filles pour qu'elles soient éduquées, qu'elles aient des diplômes, qu'elles accèdent au marché du travail. Mais si les petits garçons n'ont pas intégré dès le plus jeune âge l'égalité dans leur tête, dans leur vision du monde, dans leur vision de la société, ils vont continuer, quand ils grandiront, à freiner des cas de fer face à la prise de pouvoir de leurs consœurs. Donc c'est vrai que beaucoup de choses se jouent à un petit âge, à la crèche, en maternelle, à l'école primaire, et on travaille beaucoup aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale, des programmes sur les questions d'égalité femmes-hommes. On voit aussi que lorsqu'on en parle dans les programmes scolaires, ça a créé des débats, des énormes polémiques. Je ne sais pas si tu te souviens des ABCD de l'égalité, lorsque Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale, qui avait provoqué une énorme levée de boucliers, alors que c'était une mécompréhension totale de ce qu'elle avait proposé. Mais il faut le prendre aussi au niveau, lorsque les femmes sont adultes, il faut travailler à tous les niveaux. Lorsqu'on parle d'inégalité, c'est des inégalités, il y a des inégalités au fin fond du pays africain le plus pauvre, où une femme peut-être n'aura pas le droit non seulement d'avoir la sexualité qu'elle veut, n'aura pas le droit de maîtriser le nombre d'enfants qu'elle veut avoir, n'aura même pas simplement de moyens de contraception, mais aussi n'aura pas le droit, par exemple, d'ouvrir un compte en banque, d'être propriétaire d'une maison, de détenir de l'argent, de créer une entreprise, tout ça qui sont des droits que nous avons, ou de voter, sont des droits que nous avons obtenus de haute lutte en France, mais il faut le rappeler que c'est pas si vieux que ça, hein, parce que le droit d'ouvrir un compte en banque en France, c'est milieu des années 70, je crois. En gros, l'indépendance administrative et économique des femmes, c'est 30-40 ans maximum. Donc il faut se battre pour ces femmes-là. Il faut se battre pour les femmes afghanes, les femmes saoudiennes, les femmes iraniennes, etc. Mais il faut se battre aussi en France pour qu'il y ait davantage de femmes qui soient PDG, qu'il y ait davantage de femmes qui soient à des postes de décision dans l'administration, parce qu'on est encore loin du compte. Et donc, il faut le prendre par tous les bouts. Il faut continuer un combat législatif, c'est-à-dire il faut toujours voter plus de lois qui sont de plus en plus contraignantes. Il n'y a pas d'autre moyen. Moi, je suis une grande fan des quotas. Clairement, l'histoire a montré depuis des milliers d'années que si on ne contraignait pas par la loi, les choses n'avançaient pas assez rapidement. Le Forum économique de Davos estime qu'il faudra encore 200 ans minimum pour atteindre l'égalité réelle et complète. Je pense que c'est très, très grand minimum. Il faut avoir des campagnes de pression de l'opinion publique sur les gouvernements. Je le dis alors que je représente un gouvernement, mais c'est effectivement les mouvements féministes qui ont fait avancer les choses. En France, sur le droit à la contraception, on fêtera l'année prochaine le manifeste des 343, à l'avortement, le droit à la contraception aussi. Il faut des rôles modèles, évidemment, mais il faut aussi dire les choses. Et c'est peut-être, moi, l'appel que je lance à tous et à toutes, il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer lorsque vous voyez un exemple, une manifestation de sexisme, d'inégalité, de discrimination, d'insulte envers une femme, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, que ce soit dans votre famille proche ou éloignée, que ce soit dans votre milieu professionnel, dans le métro, dans la rue, dans les lieux publics. En réalité, si vous avez ça en tête, et moi je l'ai beaucoup parce que je suis un peu obsédée par ça, tous les jours, je vois des exemples de sexisme. Des exemples qui peuvent être extrêmement subtils, typiquement le mansplaining ou le manspreading. Mmh. Je pense que tes auditeurs savent ce que c'est. J'espère. Le fait qu'un homme coupe la parole à une femme dans une réunion, moi, ça m'arrive tous les jours. Ou qu'on pense qu'elle est la stagiaire parce qu'elle est jeune et que c'est une femme et donc on la met au dernier rang, alors qu'elle est ambassadrice, par exemple, ou directrice. La place des femmes dans l'espace public aussi. On en voit tous les jours sans aller jusque à des exemples beaucoup plus tragiques comme du harcèlement sexuel dans la rue, etc., ou des agressions, etc. Et il faut dire les choses, en fait, parce que quand on se tait, quand on ne dit pas les choses, elles continuent de passer pour acceptables. Et parfois, les hommes ou les femmes ne se rendent pas compte aussi. J'ai eu beaucoup de discussions avec des amis, des hommes, des garçons, qui sont très éduqués, qui se pensent extrêmement égalitaires et qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que la réalité aujourd'hui des inégalités, y compris en France, y compris dans des milieux très privilégiés.
Et d'ailleurs, je pense que dans une société patriarcale, ce n'est pas étonnant qu'on soit tous un peu biaisés. Et donc, quand tu parles se faire remarquer, c'est aussi remarquer à soi-même, en fait. C'est-à-dire, parfois, on peut avoir un réflexe sexiste. Moi, ça peut m'arriver de temps en temps. Et de se reprendre tout seul dans sa tête, ça peut prendre, c'est peut-être l'effet de quelques secondes, mais juste de dire, ah mince, et ça peut, enfin, je veux dire, ça peut aussi simplement se le dire à soi-même dans un premier
bien
temps.
Bien sûr.
Ça peut
mais
être aussi le dire aux autres. Hein. Mais bien sûr.
Moi, j'ai plein de réflexes sexistes. Ça m'arrive très souvent lorsque je rentre dans une réunion et que il y a une fille relativement jeune que je ne connais pas. Il m'a vraiment inconsciemment de me dire ah, elle est nouvelle, elle doit être stagiaire. Ou de pas vraiment écouter quand elle parle, ou d'être un petit peu agacée parfois par son ton de voix. Et ça, je le sais, je l'ai intégré, donc je me bats contre moi-même parce que j'ai grandi avec des représentations où, eh bien, celui qui a l'autorité et celui qui est intéressant, celui qui est l'expert, c'est un homme et en généralement il est assez âgé et en plus il est blanc et il est hétérosexuel. Et là, je pars sur d'autres sujets. Et donc moi-même, alors que j'en souffre, c'est absurde puisque moi-même je suis une femme et je suis relativement jeune, du moins au niveau de responsabilité où j'ai accédé aujourd'hui et ça m'arrive tous les jours ou presque toutes les semaines d'être prise pour la stagiaire et d'être mise de côté ou de ne pas être écoutée et puis après les gens découvrent que je suis ambassadrice et donc se reprennent. Mais donc bien sûr chacun a ce travail à faire sur soi. Les stéréotypes, les représentations genrées, on les a intégrées dès tout petit, mais vraiment tout petit, dès la naissance, dès les premiers jours, les premiers mois. En crèche aussi, il y a des podcasts et des études très intéressantes qui ont été faites sur la manière dont, alors que c'est principalement des femmes, les personnes qui sont en crèche vont un peu genrer les activités qu'elles vont faire à des tout petits garçons, des tout petites filles, ne serait-ce que sur le sport aussi, sur la force physique. Il y a beaucoup de mythes sur la différence de force physique entre les filles et les garçons. J'ai vu aujourd'hui ou hier qu'il y a des études qui sortent sur les mythes sur les hommes et les femmes préhistoriques. C'est très intéressant. On a toujours dit que les hommes préhistoriques étaient ceux qui allaient à la chasse pour aller tuer les gros animaux, tandis que les femmes s'occupaient de la cueillette et de la maison. Et en fait, il y a certaines études qui commencent à montrer que ce n'était pas vrai, qu'il y avait autant de femmes qui faisaient la chasse.
Et ça ne m'étonne pas. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le côté récent, je pense qu'il y a un exemple qui est extrêmement parlant et que tout le monde ne connaît peut-être pas, ce qui est, tu sais, la carte de crédit qu'a lancée Apple, où ils se sont basés pour être égalitaires sur de l'intelligence artificielle et donc sur ce qu'on appelle du machine learning, donc sur des bases de données. Et en fait, ils se sont rendus compte que les femmes n'avaient accès à aucune ligne de crédit parce que finalement, ils ont repris 40 ans d'histoire pour générer de la donnée. Et finalement, il y a 40 ans, les femmes, elles travaillaient beaucoup moins. Donc, nécessairement aujourd'hui, quand on reprend cette donnée-là, on se retrouve dans une situation où la carte de crédit devient sexiste, étonnamment. Alors, ils ont rectifié le tir, évidemment, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'égalité, enfin, en tout cas, le chemin qu'on a pris, il est extrêmement récent et donc aussi très fragile.
Bien sûr, et d'ailleurs, il y a 40 ans, il y a très peu de pays où les femmes avaient le droit simplement d'ouvrir un compte bancaire. Elles n'avaient pas de personnalité juridique, donc c'était forcément le mari qui ouvrait le compte bancaire, y compris pour elles ou au nom du couple. Et en France, je crois que c'est les années 70 ou quelque chose comme ça, donc c'est relativement récent. C'est l'époque de nos parents, enfin en tout cas de mes parents, ou peut-être des grands-parents pour certains. mais donc tout est relativement récent. Et c'est intéressant cet exemple que tu prends parce que on parle beaucoup des biais algorithmiques. Il y a un beau livre qui a été écrit par Aurélie Jean. Je crois que tu l'as déjà reçu peut-être ou tu vas la recevoir.
On se connaît très très bien.
Voilà, sur ce sujet qui est très intéressant là-dessus. D'ailleurs, elle raconte beaucoup d'instances de sexisme parce que c'est une femme et qu'elle est jeune et qu'elle est scientifique et qu'on pense que c'est la potiche de service. J'aimerais beaucoup l'inviter au Forum Génération Égalité, Aurélie, si vous nous entendez.
Écoute, je lui dirai avec grand plaisir.
Non, mais il y a beaucoup de sujets. Par exemple, lorsque les premières applications de santé sont apparues, où vous pouvez renseigner cette application pour savoir ce que vous avez mangé aujourd'hui, combien vous avez marché, etc. En fait, on s'est rendu compte que les standards étaient des standards masculins, alors que le poids moyen d'une femme n'est pas la même chose que d'un homme, etc. Et puis, les développeurs des applications ont complètement raté la question des règles féminines. Et que, en fait, le corps d'une femme, les hormones d'une femme, son poids, il y a plein de choses qui peuvent changer pendant la période des règles. C'est une semaine par mois quand même, pendant une bonne partie de la vie jusqu'à la ménopause de la moitié de la population. Tu te rends compte? Et en fait, ils avaient complètement oblitéré le fait que les femmes avaient des règles. C'est quand même incroyable. Ouais, maintenant, il y a plein d'applications pour savoir quand est-ce que vous allez avoir vos règles, etc. etc. Mais il y a plein de choses comme ça, évidemment, sur tout ce qui est les assistants vocaux, Siri, etc. Et le fait que la voix d'une femme n'a pas exactement la même tonalité, en général, c'est un petit peu plus haut, et que certaines machines ne sont pas faites pour vraiment entendre bien ce que dit une femme, ou alors pour ne pas le prendre en compte, etc. etc. Ça, c'est un champ qui est passionnant, que je connais moins bien, mais qui est vraiment, vraiment passionnant.
Ça, et puis si on reste sur la technologie, il y a cet exemple aussi de Mercedes où la voix du GPS était la voix d'une femme et les hommes qui conduisaient se sont rebellés contre Mercedes parce qu'ils refusaient que ce soit une femme qui leur donne des ordres, entre guillemets. C'est fou, mais c'est des exemples.
Ou alors, certains étaient... j'imagine quand c'était en tout cas la stratégie, l'idée des constructeurs, c'était de se dire qu'une voix féminine plus douce, plus séduisante, plus agréable à l'oreille serait plus acceptée par les hommes qui seraient contents d'avoir une voix féminine plutôt que d'une voix masculine. C'est sûr qu'il y a encore tellement, tellement de stéréotypes.
Exactement. C'est passionnant, Delphine. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Alors, je vais dire « et ». Donc, je voudrais claquer la porte au patriarcat et puis je voudrais ouvrir la porte à l'égalité, la vraie.
Super. Merci beaucoup, Delphine.
Merci à toi, Grégory.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !